Bonjour et bienvenue. Ce samedi 25 décembre, nous sommes heureux de le commencer avec vous de l'autre côté du poste pour partager des idées, bien sûr, mais aussi ce matin, pas mal d'émotions. On a lu, on a vu, ça nous a plu ou ça nous a déçu, ça nous a fait réfléchir, réagir. Nous allons vous parler des livres, des films et des documentaires qui ont jalonné notre année 2021. Et vous verrez que, comme d'habitude, le Mag'Éco, c'est une équipe, mais plusieurs grilles de lecture. Voilà le plateau de fête dont n'arrête pas l'écho, c'est jusqu'à 10h.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Vous connaissez les convives autour de la table. Sandrine Foulon, bonjour Madame Vioboulot.
Bonjour Alexandra.
Laurent Bigorne, le directeur de l'Institut Montaigne. Bonjour Laurent.
Bonjour Alexandra.
Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternatives Économiques. Bonjour Christian.
Bonjour à toutes et à tous.
Ah oui, il faut faire la liaison. Comme c'est la fête, nous avons deux invités. Il est assis dans le studio. Bonjour Émilien Ruiz.
Bonjour.
Vous êtes historien, enseignant à Sciences Po et auteur de cet ouvrage dont nous parlerons. Trop de fonctionnaires, point d'interrogation. Histoire d'une obsession française, 19e, 21e siècle. C'est publié chez Fayard. Et puis, elle est à distance, à Marseille, quelle chance. Mais elle est avec nous. Bonjour, Virginie Martin.
Bonjour.
Virginie Martin, vous êtes politiste, professeure et chercheuse à la Kedge Business School. Tout à l'heure, nous ouvrirons ensemble votre livre, Le charme discret des séries, aux éditions Humaine Science. Alors, ça raconte la force des plateformes Netflix, Amazon, Disney, leur influence, leurs stratégies économiques. Virginie Martin, moi j'ai juste une petite question avant de démarrer. Quand je suis devant une télé, devant une série et que je n'arrive pas à arrêter les épisodes, ça s'enchaîne. En réalité, c'est que le marketing est plus fort que moi.
Le marketing est plus fort que vous, absolument. Les neurosciences sont plus fortes que vous et les stimuli ne s'arrêtent jamais. Donc voilà, votre attention est piégée.
Et il y a une petite astuce, vous pourrez nous la dire tout à l'heure, pour quand même arriver à se décoller d'une série.
Oui, il y a peut-être des astuces, mais on est quand même un peu faible par rapport à cela.
Aïe, allez, on en saura plus tout à l'heure. Tout de suite, trois thèmes au menu, la place de l'État, le travail, la mondialisation, et puis en dessert, comme tous les ans, nous partagerons nos coups de cœur. On commence donc avec des ouvrages utiles, Christian Chavagneux, à 4 mois d'une présidentielle. Les dépenses publiques, la dette, votre première sélection, c'est ce livre, La dépense publique, vive la dépense publique. Changeons l'économie, quoi qu'il en coûte. Il faut parler des auteurs peut-être.
Ray Limoinock et Bruno Tinel sont deux professeurs d'économie aujourd'hui. Limoinock était avant député européen. C'est chez HEO. Le message, il est clair dans le bouquin dès le départ. La dépense publique n'est pas l'ennemi de l'intérêt général. On pourra en douter quand on voit certaines propositions du gouvernement ou de la campagne présidentielle actuelle. Mais non, la dépense publique n'est pas l'ennemi de l'intérêt général. Le bouquin commence par nous expliquer une chose que ça fait quand même un paquet de temps que je fais de l'économie que j'avais jamais remarqué, c'est que vous savez quand on a ce ratio dette enfin dépenses publiques sur PIB et qu'on le compare, il nous démontre
on est à 115%.
Non, ça c'est la dette. Là sur la dépense publique sur PIB, on est à 65-67%. Il nous montre que ce ratio n'a absolument aucun sens. Il va chercher des bouts de définition du PIB dans trois définitions différentes qu'il additionne. Si vous faites la même chose pour le secteur privé, vous obtenez 260% du PIB. Donc ça, ça veut absolument rien dire. Si vous prenez vraiment ce que dépense l'État, en gros c'est 27% du PIB. Oui, un peu plus en France qu'ailleurs, mais l'écart avec les autres pays est pas très important. La suite du bouquin, ça vient démontrer quoi ? Que plus on a de dépenses publiques, plus la croissance est forte et plus le déficit et la dette sont faibles en fait. Et une politique de demande efficace, nous disent les auteurs, c'est pas forcément toujours de relancer la consommation, c'est de faire une vraie politique d'investissement public. Puis enfin, la fin du livre porte sur la dette publique française et sur la dynamique de la dette publique française des années 70 à aujourd'hui. Elle trouve sa source dans quoi ? Les politiques d'austérité budgétaire qui cassent la croissance, les hausses des taux d'intérêt entre en gros la fin des années 70, le milieu des années 90, la réduction constante des recettes fiscales. À la fin, puisqu'on est quand même en année présidentielle, les auteurs plaident pour un plan de dépenses de 150 milliards d'euros sur 5 ans pour traiter les urgences écologiques et sociales et moderniser les services publics. Honnêtement, ça fait du bien à entendre en ce moment.
Est-ce que ça a fait du bien à Laurent Bigorne ?
C'est une histoire de Noël. Donc, comme tous les contes, on aimerait y croire, mais il y a plusieurs faits à côté, à mon avis, desquels les auteurs passent. D'abord, la France n'a jamais fait de consolidation budgétaire. On le saurait. Si par ailleurs, la dépense publique...
Consolidation budgétaire, ça c'est un terme trop technique. Bon, Laurent, ça veut juste dire de baisser
l'austérité.
Les dépenses.
Oui, on n'a pas fait d'austérité en France.
D'accord.
Hein. Alors ça.
Deuxième sujet, si la dette était notre seul problème, ça se saurait. C'est-à-dire que si la dette avait permis de réduire le chômage, ça se saurait. Si la dette avait permis d'être compétitif sur le plan extérieur, ça se saurait. À la limite, les Italiens, eux, vous diront. Nous, on a évidemment un sujet d'endettement public, mais on a une vraie compétitivité. On est très exportateur. C'est pas le cas en France. Par ailleurs, les auteurs postulent, autre conte de Noël, que les taux d'intérêt vont rester bas. On n'en sait rigoureusement rien. Et on sait une chose, c'est que du jour où les taux d'intérêt remontent, notre situation d'endettement deviendra insoutenable. Et par ailleurs, il y a effectivement un réquisitoire contre les politiques de l'offre. Enfin, il y a plein d'endroits où les politiques de l'offre ont marché, y compris en Europe. C'est vrai en Allemagne, c'est vrai en Suisse. Et d'ailleurs, il y a toujours des mix. C'est-à-dire qu'il faut se garder des caricatures. Et puis, il y a cette volonté quand même très politique de nous expliquer que Macron, c'est Trump. Alors, moi, je regarde un petit peu ce qui s'est passé fiscalement sous ce quinquennat. Je veux dire, les plus grosses diminutions d'impôts, c'est la taxe d'habitation. Hein, c'est pas au bénéfice des entreprises, c'est au bénéfice des contribuables de vous et moi.
Donc vous pensez que le bouquin est un conte de Noël. Je vous arrête là, Christian ? Vous
n'êtes pas... Non, moi, je trouve que c'est une vraie histoire et que nos gouvernements devraient s'en inspirer.
On s'arrête là-dessus sur le livre Vive la dépense publique. Laurent, vous n'avez rien de gardé au fond de votre cœur ?
Il y a une apologie de l'État stratège. L'État stratège, quand on se retourne un peu sur son track record, sur ce qu'il a fait ces dernières années entre Areva, Renault et Engie, on peut s'interroger sur la capacité de l'État à rester stratège.
Bon. Alors, grille de lecture totalement différente sur ce livre. Émilien Ruiz, vous êtes avec nous. Votre livre s'appelle « Trop de fonctionnaires ?» Point d'interrogation, on est toujours dans le questionnement de la dépense publique. C'est publié chez Fayard et vous avez regardé du 19e au 21e siècle. Nous, dans On n'arrête pas l'écho, grâce à l'INA, nous avons pu remonter moins loin, quelques décennies en arrière. Mais alors oui, c'est bien une obsession. Les fonctionnaires, on rembobine.
1949.
Périodiquement, la question de la compression des dépenses publiques revient au premier plan de l'actualité et, avec la même régularité, l'opinion publique assimile à ce problème celui de la compression du nombre des fonctionnaires.
Dans chaque ville importante.
Michel Debré.
On procédait à ce regroupement.
Sénateur d'Indre-et-Loire.
Non seulement on allégerait en ce moment la tâche du ministère de la Reconstruction, mais on rendrait un service éminent, non seulement aux fonctionnaires, mais au public.
Alors, y a-t-il trop de fonctionnaires en France ?
1987.
Les fonctionnaires français sont-ils vraiment responsables ou irresponsables ?
1996.
La fameuse phrase du Premier ministre Juppé sur la mauvaise graisse dans la fonction publique aura eu au moins le mérite de poser un débat jusqu'ici tabou. Y a-t-il trop de fonctionnaires ?
2008.
On est bien obligé de supprimer des postes de fonctionnaires.
Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation nationale.
On ne peut que très difficilement faire autrement.
2017.
Il y a 5 500 ou 600 000 fonctionnaires en France.
François Fillon, candidat LR à l'élection présidentielle.
Le projet que je propose, ça consiste à réduire 8% de cet effectif sur 5 ans.
2021. Valérie Pécresse, candidate LR à l'élection présidentielle.
Moi, je supprimerai 200 000 postes. Je veux un comité de la hache pour simplifier les normes.
Émilien Ruiz, il faut réduire le nombre de fonctionnaires depuis 1949. Là, on vient de l'entendre dans notre zapping. On a trouvé ce message porté par la droite et le patronat. Mais est-ce que ça serait exact de dire que ce message, il y a trop de fonctionnaires, il faut baisser le nombre. Est-ce que ça serait exact de dire qu'il n'a qu'une seule couleur politique ?
Ah non, pas du tout. Non, c'est la dénonciation du nombre des fonctionnaires. C'est le seul point commun que j'ai trouvé dans des personnalités politiques aussi diverses que le socialiste Jaurès, le nationaliste Maurras. Et je commence avec une citation de Saint-Just qui parle des 20 000 sauts sous la Révolution.
1793, Saint-Just qui dit, oui, il les traite de sauts.
Il dit qu'il y a 20 000 sauts qui corrompent la République et un peu plus loin dans le discours, ils disent qu'il y en a trop et que plus il y en a, plus on en recrutera. Donc un discours qu'on connaît encore aujourd'hui très bien avec l'idée que les fonctionnaires s'auto-multiplie en fait de façon quasiment naturelle.
Et ça, c'est une idée qui transpartisane, c'est-à-dire de gauche à droite et jusqu'à Saint-Just, l'idée c'était ça, c'était qu'on ne pouvait pas arrêter la croissance du nombre de fonctionnaires.
C'est ça, et alors en même temps, on dénonce le nombre des fonctionnaires, mais pas. C'est transpartisan, tout le monde les dénonce, mais tout le monde dénonce des choses différentes.
Allez-y.
C'est-à-dire qu'en fait, que quand Saint-Just dénonce le nombre des fonctionnaires, en fait, il dit pas qu'il y a trop d'États. En fait, Saint-Just, il dit attention, les fonctionnaires vont capturer la République. Et il faut qu'on soit sûr que ce soit des républicains. Quand la droite, dans le premier XXe siècle, dénonce le nombre des fonctionnaires, l'argument budgétaire, il est déjà présent. Mais ce dont on s'inquiète, c'est de la républicanisation des institutions. C'est les anti-républicains qui ont peur que des partisans de la monarchie, des bonapartistes, restent dans les allées du pouvoir et confisquent la démocratie. Donc pendant très longtemps, l'enjeu a été celui d'une crainte de la capture du pouvoir par la bureaucratie.
Et aujourd'hui, on est sur un questionnement budgétaire. C'est ce qu'on entend. On entend, il faut, parce qu'il y a des problèmes de dépenses publiques, il va falloir serrer de ce côté-là.
Oui, c'est le discours qu'on a depuis à peu près les années 80-90, en réalité. Mais ce discours, là où je le trouve très intéressant, c'est qu'il a dépolitisé la question. Moi, ce que j'essaye de montrer dans le livre, c'est que c'est une question politique. Donc, en fait, l'enjeu de dire qu'il y a un enjeu budgétaire, il est tout à fait réel. C'est-à-dire discuter de la dépense publique, de la dette, c'est des choses qui sont très importantes. Mais quand on ne fait que dire il faut diminuer les effectifs pour le budget, mais qu'on ne dit pas ce qu'on veut comme État derrière, on oublie toute la dimension politique qu'il y a derrière cette question.
Question de Sandrine Foulon.
Oui, alors Émilien Ruiz, qui est souvent attaqué, ce qui est jalousé, c'est le statut d'emploi à vie des fonctionnaires. Mais vous montrez que ce n'est pas le cas. Il y a des révocations, notamment sous Vichy, il y en a eu 40%. Et on apprend surtout dans votre livre que le recrutement de non-titulaires commence après la Première Guerre mondiale. Est-ce qu'au fond, la tendance historique, plutôt que de promettre des réductions d'effectifs qui ne sont pas tenues, c'est d'embaucher toujours plus de contractuels?
C'est un peu ça. En tout cas, il y a eu une vraie accélération ces dernières années. Mais en fait, si on regarde depuis l'origine de la fonction publique, la croissance de l'État s'est toujours accompagnée d'une augmentation des contractuels, des vacataires, des auxiliaires auparavant. Donc en fait, c'est des types de statuts, c'est des types d'emplois qui permettent au départ de se dire on crée une administration mais elle est temporaire. Donc par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, on crée un ministère du ravitaillement, on sait très bien qu'on n'en aura plus besoin après, c'est 95% d'effectifs auxiliaires par exemple. Mais en fait, à chaque fois, progressivement, avec la logique du statut qui va progressivement se mettre en place, on va commencer à se dire oui, mais ces agents-là, il va falloir les titulariser. Donc progressivement, on essaye de les titulariser, mais en recrutant toujours plus de contractuels à côté. Et le vrai changement de ces, 10-15 dernières années, Aurélie Perrin, qui est une sociologue spécialiste des contractuels, dirait même depuis les années 70, c'est qu'on a une tendance à considérer, seulement quelques dizaines d'années après que le statut ait été vraiment adopté, que la norme statutaire ne devrait plus être une norme, justement, et que la norme devrait être les contractuels. Et c'est ce à quoi on arrive ces temps-ci.
Question de Christian Chavagneux.
Au-delà du nombre de fonctionnaires, vous nous dites il y a une dénonciation de ce que vous appelez le fonctionnarisme. C'est-à-dire, ces fonctionnaires, c'est vraiment des gens qui restent au bureau à rien faire. Aujourd'hui encore, c'est dans certains quartiers de la population française, quand on veut dire « Ah ben moi, je suis dynamique, je suis pas fonctionnaire ». Expliquez-nous un peu cette critique du fonctionnarisme qui va au-delà de la critique du nombre.
Alors, ça revêt plusieurs choses. Ça revêt une première chose qui est l'inquiétude des libéraux du 19e siècle face à cette appétence pour le fonctionnariat. C'est-à-dire que ce qui inquiète à ce moment-là, c'est l'idée que des gens veulent être fonctionnaires et le travail de fonctionnaire serait un travail non productif. Donc il y a une vraie inquiétude sur le fait que en ayant de plus en plus de personnes dans la population qui seraient dans l'administration, on serait un pays de moins en moins productif. Donc il y a ce côté-là, il y a un autre côté qui est le côté énergie individuelle. Plus il y a d'État, plus on va limiter les énergies individuelles, plus on va limiter les possibilités d'innovation, d'entrepreneuriat, etc. Et on s'inquiète de ça. Donc ça, c'est un discours qu'on retrouve beaucoup au 19e siècle, qui est très assumé, autour du fonctionnarisme. Après, il y a des inquiétudes qui vont dévier progressivement avec l'apparition du socialisme, avec l'apparition du syndicalisme, les associations de fonctionnaires. Et là, le fonctionnarisme va prendre une autre forme. On va commencer à s'inquiéter du risque que pourrait faire peser la syndicalisation des fonctionnaires. C'est d'ailleurs comme ça qu'on pense le statut au départ, hein. c'est un barrage au syndicalisme et à la grève. Quand on invente le statut, au départ, c'est comme ça qu'on pense les choses, c'est-à-dire il faut absolument qu'ils soient dans une relation à l'État qui les empêche de faire comme dans le monde ouvrier, de telle sorte que ce soit pas une sorte de pouvoir dans l'État.
Alors, on critique le nombre de fonctionnaires, vous le montrez, depuis Saint-Just et puis encore plus depuis le 19e siècle. En même temps, le nombre de fonctionnaires n'arrête pas de monter. Il y a eu, vous dites, deux grandes périodes historiques pendant lesquelles le nombre de fonctionnaires a augmenté. C'est juste après la Première Guerre mondiale, un gouvernement de droite et sous Vichy. Expliquez-nous pourquoi c'est plutôt les gens de droite qui critiquent le nombre de fonctionnaires. Et en même temps, dans l'histoire, les deux grands moments sont deux gouvernements très à droite.
Alors, je ne sais pas si je dirais que c'est la droite qui a vraiment fait augmenter le nombre des fonctionnaires. En tout cas, elle ne l'a jamais empêché. Ça, c'est vrai dans les périodes que vous évoquez là. En fait, on a toujours dénoncé le nombre des fonctionnaires, mais en réalité, s'il a toujours augmenté, c'est parce qu'on n'a jamais véritablement été au bout de cette dénonciation. C'est-à-dire qu'en fait, on dénonce le nombre des fonctionnaires parce qu'on veut dénoncer les interventions de l'État, par exemple. Donc, on va dire, attention, l'État n'a rien à faire dans l'instruction publique. Mais ensuite, une fois que la Troisième République fait de l'instruction publique une affaire d'État, à partir de l'après-Première Guerre mondiale, on ne revient plus là-dessus. On ne dit pas attention, c'est quelque chose d'acquis.
En fait, cette augmentation du nombre de fonctionnaires, c'est toujours le miroir des fonctions, des missions qu'on assigne à l'État.
C'est ça.
Et elles sont de plus en plus nombreuses.
C'est ça, exactement. C'est-à-dire que les anti-étatistes disaient au 19e siècle, la fonction crée l'organe. Et donc, plus on donne de fonctions à l'État, plus il y aura de fonctionnaires. Et ils avaient tout à fait raison. C'est-à-dire que l'État prend en charge de plus en plus de besoins. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant longtemps, la dénonciation du nombre des fonctionnaires assumait cette critique de dire, il faut revenir sur ces interventions de l'État, il faut que l'État arrête d'intervenir dans tel ou tel domaine. C'est ce qui a disparu aujourd'hui, il me semble.
Allez, dernière question, Sandrine Foulon.
Oui, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est la place des femmes dans la fonction publique. On a plutôt tendance à croire que l'égalité y est plus forte que dans le secteur privé. Or, vous montrez que non et que certaines inégalités perdurent aujourd'hui.
Oui, c'est-à-dire que l'entrée des femmes dans les administrations a pas été quelque chose qui, ça a pas été un long fleuve tranquille. C'est-à-dire que l'historiographie montre que les femmes ont toujours travaillé. L'idée que les femmes n'auraient pas travaillé à certaines époques est complètement fausse. Les historiens et les historiennes ont bien montré que c'était des problèmes d'enregistrement statistique, etc. Dans la fonction publique, c'est vrai. Dans la fonction publique, pendant longtemps, on les a empêchées de travailler. C'est-à-dire qu'elles avaient le droit de travailler dans les postes, mais les fonctions administratives leur étaient interdites. Et l'entrée des femmes dans la fonction publique a été très progressive. Ça a été une lutte d'abord pour avoir le droit de travailler dans la fonction publique, puis ensuite pour avoir le droit d'accéder à des postes de direction, puis des postes de haute fonction publique, et enfin pour l'égalité salariale. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, cette lutte, elle n'est même pas encore terminée aujourd'hui.
Ça s'appelle « Trop de fonctionnaires ?» Point d'interrogation. Émilien Ruiz, vous restez avec nous. On continue ce magazine éco spécial fête. Laurent Bigorgne, je me tourne vers vous. La place de l'État dans le système capitaliste, cette question, on en parle en France, mais on en parle bien au-delà de l'Hexagone.
Oui, je vais vous proposer de découvrir le livre de Minouche Shafik. Minouche est à la fois, Shafik est à la fois égyptienne, britannique et citoyenne américaine. Elle est aujourd'hui la directrice de la fameuse London School of Economics, qui Christian ici même connaît bien. Mm-hmm. Et elle est directrice depuis 2017, après un parcours tout à fait remarquable, à la fois à la Banque mondiale, au FMI, au Fonds monétaire international, mais aussi dans plusieurs universités prestigieuses, notamment aux États-Unis, à Georgetown et à UPenn, à Philadelphie. Et elle a publié un ouvrage qui s'inscrit un peu dans la lignée de l'ouvrage de Beveridge, qui a été son prédécesseur à la direction de la LSI, qui en 1942 a été auteur du fameux rapport qui, en Grande-Bretagne, a amorcé la construction d'un État providence. Elle situe son ouvrage qui s'appelle « What We Owe Each Other, A New Social Contract », donc ce qu'on se doit les uns aux autres pour un nouveau contrat social. Elle noue son ouvrage avec la situation de la vague de populisme 2016 et en disant « Au fond, on a trop tendance à voir la redistribution comme le seul moyen de lutter contre les inégalités. Ça n'est pas suffisant. C'est par ailleurs assez souvent une mauvaise option en tant que telle. Et il faut mieux s'intéresser à deux moments clés de la vie sur lesquels elle centre beaucoup l'ouvrage. La toute petite enfance, en disant on ne fait pas aujourd'hui les efforts que nous devrions faire en matière de petite enfance. Et je pense qu'elle a raison, particulièrement s'agissant d'un pays comme la France. Et par ailleurs, on ne tient pas assez au sérieux les enjeux de formation continue. Alors, on connaît bien cette thématique de la formation continue, mais elle le cible particulièrement chez les gens un peu plus âgés. En disant, si on veut garder les gens en emploi plus longtemps et si on veut qu'ils soient heureux, il faut impérativement faire un effort sur ce moment clé et sur ce moment charnière de la vie. Il y a deux choses qui m'ont intéressé dans l'ouvrage. D'abord, elle dit, il y a dans nos sociétés, particulièrement en Occident, un véritable échec. On a des talents qui sont inexploités. On ne sait pas aller chercher suffisamment de talent chez les femmes, dans les minorités, chez les enfants nés dans les quartiers pauvres. Et elle cite un chiffre qui m'a frappé, elle dit « On estime qu'en moyenne, 20 à 40% des gains de productivité aux États-Unis entre 1960 pardon, et 2010 sont dus à l'intégration des femmes, de la population noire et des minorités pardon, ethniques sur le marché du travail. » Deuxième sujet, elle nous dit au fond, il faut trouver en Europe notamment un meilleur mix entre la flexibilité et la sécurité. On sait que c'est un des thèmes qui avait été très martelé dans la campagne de 2017. Et le salaire minimum n'est pas nécessairement le bon instrument. Bien sûr, il faut un salaire minimum, minimum, mais ça ne peut pas être le seul instrument. Et tout son gaius sont couplés sur justement la formation, et notamment la formation continue des individus.
Donc ça, c'est la recommandation numéro 1 de Laurent Bigorne, le livre de Minouche Chafik, qui donc dirige aujourd'hui la London School of Economics. On va mettre toutes les références, évidemment, sur le site de l'émission. Et puis, Laurent, vous avez ce livre que vous nous avez apporté, le livre de Patrick Artus et Marie-Paul Virard. On en dit juste un mot, c'est la dernière chance du capitalisme.
On connaît bien Patrick Artus et sa co-auteure ou co-autrice, pardon, Marie-Paul Virard, dans cette émission. J'ai été frappé en ouvrant le livre, je me suis dit, mais c'est Christian Chavagneux qui a écrit le bouquin. Parce que toute la première partie est un réquisitoire très violent contre un capitalisme néo-libéral. Et puis à un moment, au fond, Patrick Artus bat le masque, jette le masque, et nous dit...
Chef économiste chez Natixis,
exactement,
peut-être qu'il faut le rappeler.
Il nous dit, en réalité, il faut repartir du grand livre de Milton Friedman, Capitalisme et Liberté, publié en 1962, qui montre bien que le capitalisme est l'unique moyen de bâtir une société libre. C'est le seul système économique compatible avec la liberté et la démocratie, selon Friedman. Et l'État est là pour faire respecter les libertés, assumer les fonctions régaliennes, défendre les droits de propriété, garantir l'éducation. Et ce à quoi nous devons travailler aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas d'argent magique, ce à quoi nous devons travailler, c'est de rééquilibrer le capitalisme, et notamment, par exemple, pour plus de concurrence dans l'économie.
Christian Chavagneux.
Après la première moitié du livre, j'avais préparé ma lettre d'embauche à Patrick Artus, parce que je sais qu'il est bientôt à la retraite. Le capitalisme libéral est injuste, inefficace, rentier, il tue l'innovation. Et puis après, j'ai gardé la lettre, j'ai jeté à la poubelle.
Vous n'allez pas le prendre à l'alternative?
Non, je ne vais pas le prendre, parce que quand il bascule sur le côté friedmanien en disant, oh là là, il a peur de la dette publique et du financement par les banques centrales, quand il nous dit quand même que la montée en puissance de l'actionnariat salarié, c'est ce qui va permettre de régler tous les problèmes, là, je suis pas d'accord. Il reste quand même, c'est un livre vraiment vif, argumenté, c'est très pédagogue, c'est du Artus.
C'est du Artus, hein. Oui, c'est toujours bien écrit. Intéressant. Allez, deuxième thème, madame, messieurs. Si, on en discute même pendant les fêtes, c'est le travail.
Non, on ne le pourrait plus.
Je me réveille à 4h30, on va dire. Et puis le soir, le temps de rentrer, en gros, je me couche souvent à 22h30.
C'est 12 heures d'amplitude pour 4 ou 5 heures payées au SMIC, quoi.
Vous diriez qu'ils sont exploités, ces gens-là?
C'est l'évidence.
Donc toi, t'es une travailleuse pauvre.
Je suis une travailleuse pauvre. Mais on a notre métier. Moi, j'aime ça. J'ai toujours fait ça,
Nous demandons, par cet amendement, des horaires dignes et un salaire décent.
Mais oui, je parle avec colère parce que les gens vont continuer à se lever à 4 heures du matin, à être payés 3 heures à 10 euros. Vous laissez faire ça.
Ensemble, on nous opprime les femmes.
Debout les femmes, c'est un extrait du film de Gilles Perret et François Ruffin. La caméra suit donc le député LFI Ruffin et Sandrine Foulon, également le député La République En Marche, Bruno Bonnel. C'est un film qui traite de ce qu'ils appellent les métiers du lien.
Oui, absolument. Alors oui, les deux députés forment un duo improbable. C'est ce qui participe aussi à la réussite du film. Tous les deux se traitent mutuellement de têtes de cons. Rien ne les rassemble, si ce n'est une proposition de loi pour améliorer les conditions de travail et le salaire de ces femmes qui se déplacent au domicile des personnes âgées pour les laver, pour les aider, pour ouvrir les volets, pour leur donner à manger. Ils réclament la même chose dans les écoles pour ce qu'on appelle les accompagnantes d'élèves en situation de handicap qui accompagnent les enfants autistes, par exemple. C'est plutôt rare de voir ça au cinéma. Gilles Perret et François Ruffin donnent la parole à des femmes qu'on ne voit jamais, qu'on n'entend jamais. Mmh. Là, on les suit dans leur quotidien. Elles gagnent moins de 1000 euros par mois parce qu'elles sont payées à la tâche, elles ont des emplois du temps à trous, les déplacements en voiture ne sont pas comptés. Le travail morcelé, c'est pas une nouveauté. Florence Aubenas l'avait montré avec le quai de Ouistreham.
La journaliste, oui, bien
exactement.
Sûr.
Exactement, mais leur talent, celui de Ruffin aussi, c'est de faire en sorte qu'on en parle, qu'on parle d'un sujet qui est connu, mais ils le font bien, ils le font avec talent. On rit beaucoup dans le film, on pleure aussi un peu, mais ça reste évidemment un film politique. La proposition de loi n'a pas abouti, mais comme le dit François Ruffin, pendant le confinement, on a applaudi tous les soirs, on a salué le travail de ces deuxièmes lignes. Maintenant, il s'agit de les récompenser. Et l'idée du film, c'est d'en faire une question centrale, d'une question qui revienne systématiquement dans la campagne présidentielle.
Et puis Sandrine Foulon, vous avez deux recommandations, deux livres. Allons-y. pour ces deux livres. D'abord celui de Saline Blanchard et Sophie Pochic, et puis ensuite on parlera de celui de Pavlina Tcherneva.
Oui, alors le premier s'appelle « Quantifier l'égalité au travail, outils politiques et enjeux scientifiques ». C'est un travail sérieux, collectif, dirigé par les sociologues Sophie Pochic et Saline Blanchard. C'est un ouvrage très éclairant, très documenté sur la difficulté à évaluer et surtout à résorber les inégalités hommes-femmes. Les auteurs reviennent sur différentes mesures comme la loi Roudy de 1983. Ça a permis de révéler certains écarts, mais ça n'a pas vraiment marché. Il y a évidemment tout un passage sur le dernier dispositif, l'index de l'égalité professionnelle, qui n'est lié à aucune obligation de résultat, avec des critères parfois imprécis, discutables. Par exemple, on mesure le pourcentage de femmes et d'hommes qui ont une augmentation dans l'année. Mais si toutes les femmes gagnent 10 euros et tous les hommes gagnent 100 euros, bah ça ne dit rien. Le livre propose plein d'exemples intéressants à l'étranger, au Royaume-Uni, en Suède, au Québec, où l'idée, c'est plutôt de comparer des métiers qui sont de valeur égale. On donne un salaire égal pour un métier de valeur égale. Et pas besoin de faire une loi, on a ça en France. Le deuxième livre vraiment très intéressant, c'est La garantie d'emploi de Pavlina Tcherneva à la découverte. Bon, on rappelle que Pavlina Tcherneva est une économiste américaine, elle a conseillé Bernie Sanders, et sa grande idée, c'est de proposer une garantie d'emploi, c'est-à-dire offrir à tous ceux qui le souhaitent un emploi payé au SMIC dans les secteurs de la transition écologique ou des services à la personne. C'est ce qu'elle appelle une option publique d'emploi parce que l'État agit comme employeur en dernier ressort.
Et on en parle déjà dans notre campagne présidentielle. Laurent Bigorgne, vous nous avez apporté l'emploi et le territoire aux presses de Sciences Po. Trois auteurs.
Trois auteurs proches du laboratoire Newcrest, qui est proche de Gensae. Thomas Dumotte, Francis Kramartz et Benoît Schmutz, très simplement, l'ouvrage part d'un constat. Certains territoires connaissent une situation de chômage chronique, d'autres souffrent au contraire des effets de la congestion des emplois et des activités économiques. La question c'est que peuvent les politiques publiques, et ça les auteurs recensent les différentes politiques publiques d'accès au logement, d'attractivité des régions, de qualité de vie. On se rend compte qu'en réalité, on a peu de choses dans l'arsenal des politiques publiques. Vous verrez leurs propositions, je vous invite à découvrir le livre, mais c'est stimulant.
Les livres, les films et les documentaires qui ont marqué l'équipe du Magéco en 2021. Voici le troisième et dernier thème, la mondialisation.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
La mattina, mi sono alzato.
Je pourrais passer pour un bon père si je voulais travailler avec mon fils. Mais si ce travail était un cambriolage, il y aurait forcément des esprits chagrins pour trouver ça déplorable.
Je vais rien cambrioler du tout avec toi, papa.
Ça te plaît pas?
Bah, les bouquins de Lupin, je kiffe, hein, mais le costume, je suis pas sûr.
Moi, je suis sûr. Tu vas kiffer, ça. Fais-moi confiance.
Vous êtes d'accord avec lui? Vous trouvez que la tristesse me va bien?
Je pense que la tristesse, ça ne va bien à personne.
Oh, Kyle.
Oh, mais...
Kyle?
Putain.
Norman.
Milburn. C'est seulement toi. J'ai cru que c'était encore les frères. C'est moi le roi du sexe, maintenant.
Trust. Fais-moi confiance. Le pouvoir est à ta portée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'avancer doucement pour y accéder.
Les génériques de La Casa de Papel, Lupin, En Thérapie, Sex Education, Killing Eve, des séries qui ont conquis la planète via des plateformes ultra puissantes. Virginie Martin, la mondialisation, on la regarde avec vous, qui êtes politiste et qui avez écrit ce livre, Le charme discret des séries, aux éditions Humaine Science. Disney, Amazon, Netflix, ça ce sont les plateformes, les Français vivent avec. Là j'ai cité que des américaines, mais il y en a d'autres?
Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a évidemment Canal qui fournit quand même aussi des séries. Arte, bien évidemment, Salto. Voilà, c'est quand même toute une panoplie. Et dans les pays aussi, il peut y avoir ici ou là des plateformes, mais évidemment rien à voir avec les mastodontes que sont Netflix, Amazon et Disney.
Question de Christian Chavagneux.
Oui, moi j'ai adoré votre bouquin parce qu'il explique bien la vision du monde que projettent toutes ces séries. Je vais m'intéresser à une partie bien précise qui est le monde économique, bien sûr. Et vous dites à la fin de votre livre que les séries plutôt dénoncent les errements du monde économique et puis qu'il y a beaucoup de dystopies qui se veulent en fait des lanceuses d'alerte contre les populismes, contre le pouvoir des ultra-riches ou le contrôle technologique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça un petit peu ?
Bah oui, c'est vrai. Alors après, c'est le paradoxe parce que elles-mêmes, hein, évidemment, ces plateformes sont les ultra riches quand même de la planète. C'est ce que je dis aussi un peu à la fin du bouquin. Ces plateformes jouent quasiment comme des États. Elles ont aussi un message politique et c'est notamment Netflix, hein, encore plus Netflix que les autres. Et c'est ce que vous dites, hein, c'est-à-dire que dans les séries, les créateurs et les créatrices, parce qu'il y a beaucoup de créatrices aujourd'hui, effectivement, jouent beaucoup les lanceuses d'alerte, c'est-à-dire attention au populisme, au Trump, au Maudit, au Erdogan, attention au pays où justement il y a des autorités, par exemple religieuses, qui peuvent être trop fortes, comme la Jordanie. Ça commence, et vraiment, ils s'immiscent dans une optique, j'allais dire, géopolitique, véritablement, dans tous les pays du monde, et ça, c'est passionnant. Alors après, évidemment, ils dénoncent les dérives des 1% des 1% les plus riches de la planète, notamment dans pas mal de séries, mais en même temps, ils en font partie.
Question de Laurent Bigorgne.
Oui, moi j'avais envie de resituer l'ouvrage dans une décision qui vient de tomber il y a quelques jours. On a vu que les plateformes Netflix, Amazon, Disney, Apple vont devoir, au terme d'une négociation qui s'est menée avec le CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, consacrer 20% de leur chiffre d'affaires en France pour financer l'audiovisuel français. Ça veut dire des séries, mais aussi du cinéma. J'avais envie de vous demander bonne ou mauvaise décision. Et puis la deuxième question qui évidemment est derrière celle-ci, pourquoi on a le sentiment que la production française est un peu en arrière de la main par rapport à des pays comme Israël, comme les pays du nord de l'Europe, qui ont su parfaitement dessiner leur industrie audiovisuelle pour être en phase avec les attentes des consommateurs mondiaux à travers ces grandes plateformes?
Alors, pour répondre tout de suite à la deuxième question, c'est vrai que la France, et je le dis largement dans le livre, est très à la traîne. On est moins audacieux, on ose moins, on est parfois aussi moins politique, on rentre moins dedans directement sur la chose politique. En Israël, les séries sont éminemment politiques, elles embrassent vraiment tous les enjeux locaux, et ils ne sont pas des moindres, évidemment. C'est comme aussi, alors la Corée du Sud aussi a beaucoup joué le jeu là-dessus, souvent elle a séduit par des dramas, mais quand on voit la dernière série Squid Game, qui a eu un succès phénoménal, on voit aussi qu'ils savent faire des choses dérangeantes. En France, on en est, je ne veux pas dire que tout se résume à 10% avec des artistes, des comédiens, des comédiennes mises en scène, mais on en est un petit peu là. On a eu en générique Lupin, voilà, c'est un peu le soft power tranquille à la française, la mode, le luxe, c'est sympa tout cela. Voilà, il y a un peu moins de travail peut-être politique, il y en a, il y a Baron Noir, il y a Les Sauvages, il y a des schlosses, mais c'est vrai qu'on est un peu en deçà des radars, si je puis dire. Après, ça plaît quand même, hein. Lupin est un succès international vraiment absolu, tout comme 10% d'ailleurs. Donc finalement, la France fournit un peu ce qu'on lui demande d'une certaine manière. Maintenant, j'espère que cette contrainte financière permettra d'être plus audacieux et d'oser plus.
Virginie Martin, moi ce qui m'a vraiment intéressée dans votre ouvrage, c'est le processus industriel de la création et notamment tout ce qui est marketing. Ces séries, elles développent beaucoup de thèmes sur les inégalités, mais ça vient de plein de choses. Ça vient des focus group dès le début en réalité. On va chercher quels thèmes vont parler au plus grand public, c'est ça ?
Oui, c'est ça, absolument. Hein. On sait que, par exemple, Orange is the New Black, je le dis dans le livre, est vraiment partie d'une idée d'un focus group, c'est-à-dire de quoi vous voulez parler ? Ah, de femmes, très bien, de communautés, très bien. Ah, bah, si on les mettait en prison, ça serait encore mieux. Et ça donne Orange is the New Black. Et là, tout d'un coup, bah, on a quand même voilà, tout ce que les États-Unis savent faire au regard des communautés, au regard des minorités, dans le bon sens du terme, hein, parce qu'en France, on voit ça souvent négativement. Là, c'est plutôt dans le bon sens du terme. Donc, effectivement, il y a un gros travail de marketing, il y a un gros travail de showrunner. Les showrunners, c'est vraiment ces espèces de il y a des pièces qui sont consacrées à l'écriture, dans lesquelles il y a un maître d'œuvre ou une maîtresse d'œuvre qui fait travailler comme ça les scénaristes quasiment nuit et jour pour produire toujours.
Et ne jamais laisser le spectateur en...
Évidemment, et ne jamais laisser le spectateur finalement qui s'impatienterait. En fait, il faut toujours le laisser actif, intéressé, comme agrippé finalement à la série. Et ça, c'est très important. Évidemment, c'est toute une économie de l'attention, bien sûr.
Alors justement, cette addiction, comment... je disais au début de l'émission, il faut nous dire comment on s'arrête, quoi. Il faut essayer de sauver les gens ce matin, Virginie Martin. Est-ce qu'on peut arrêter toute cette science, toutes ces lois du neuromarketing? Comment on fait? C'est ma dernière question.
C'est difficile, parce qu'en fait, les séries sont faites un peu pour, comme s'il y avait un oiseau dans le ciel qui attirait notre attention toutes les deux secondes. Hein, d'une certaine manière, c'est cela. Donc forcément, on regarde. En plus, ça fournit de la dopamine, donc ça régule nos anxiétés. Ce qu'il faut faire, mais il faut un courage énorme, c'est que la pause ne serait possible finalement qu'en arrêtant au milieu d'un épisode pour ne pas avoir le phénomène de cliffhanger. Le phénomène de cliffhanger, c'est quelqu'un qui est suspendu comme ça au bord d'une falaise, tombera pas. Ben, à la fin de tous les épisodes, c'est cela. Donc si on s'arrête au milieu d'un épisode, on peut éviter le cliffhanger.
En effet, il faut beaucoup de courage. Virginie Martin, vous restez avec nous. Dans un instant, nous partageons nos coups de cœur. Laurent Bigorni, la mondialisation, on la vit au-delà de la fiction. Hein, et là, vous nous ramenez bien dans la réalité avec le livre de l'économiste Lionel Fontanier.
Oui, Lionel Fontanier est professeur à l'école d'économie de Paris, à l'université de Paris 1. Et j'ai trouvé ce livre vraiment intéressant. C'est un livre sur le choc du commerce international sur le marché du travail. Il fait écho à l'émission qu'on a eu il y a quelques semaines sur l'entrée de l'OMC. De la Chine, pardon, dans l'OMC, et on estime que l'entrée de la Chine dans l'OMC il y a 20 ans a permis à peu près, il y a différents calculs qui permettent d'y arriver, hein, mais de gagner, ça c'est un caddie, 100 euros par mois par ménage en France, mais ce que dit Lionel Fontanier, c'est qu'il y a une certaine défiance, une certaine fatigue face à la mondialisation, qui est un processus très complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a des gagnants, il y a des perdants, et le drame de la mondialisation, c'est qu'il y a des effets négatifs, qui vont être très spectaculaires, des disparitions de sites de production, d'industrie, mais des gains qui sont très diffus dans la société, qui sont silencieux, qui se propagent dans l'économie. Et en réalité, on est dans une société aujourd'hui où la mondialisation crée des gagnants et des perdants. Et on a du côté des gagnants ceux qui vont être les urbains, des grandes villes connectées, très qualifiées. Et puis on a les perdants qui sont ceux qui sont sur des emplois routiniers, industriels, en perte de vitesse. Et la question, c'est de savoir à nouveau comment les politiques publiques peuvent porter remède, évidemment, à ces chocs différenciés.
Ça s'appelle « La feuille de paix et le caddie » de Lionel Fontanier, et c'est aux presses de Sciences Po. Christian Chavagneux, le livre de Cyril P. Coutancé, c'est aux éditions du CNRS.
Oui, la relocalisation du monde. Il ne nous parle pas de démondialisation, mais c'est bien de ça dont parle le livre, qui nous dit dès le début, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre devant nous, celle du made in local. Alors, les arguments qui sont avancés au début sont les arguments traditionnels. Les coûts salariaux ont tendance à augmenter en Chine et dans les pays émergents. On voit bien qu'avec les aléas climatiques, avec les pandémies, les chaînes d'approvisionnement, quand vous organisez votre production au niveau mondial, ça peut être remis en cause. Tout ça y est, mais moi, ce qui m'a intéressé dans le livre, je pense que c'est vraiment pour moi un des meilleurs livres de 2021, c'est qu'on est vraiment dans l'analyse à la fois générale et avec les exemples concrets. Il nous dit, Cyril Coutancé, regardez la numérisation. On pense que tout le monde avec nos portables, la numérisation s'est faite. Non, oui. Elle s'est arrêtée en fait à la porte des usines. Et l'arrivée de la 5G va permettre de synchroniser le cycle « je produis », je vends et je livre. Et ça permet de répondre à une fabrication quasiment à la demande. C'est ce que font Zara, c'est ce que fait Zara par exemple. Mais ça, pour que ça marche, il faut produire au plus près du consommateur, donc localement et non pas avec une chaîne de valeur mondiale. Autre exemple, les imprimantes 3D. L'imprimante 3D, elle réduit le nombre de pièces nécessaires et le commerce des composants, qui vous le savez, le commerce des composants, c'est l'essentiel du commerce mondial. Avec un exemple tout à fait frappant, BMW avait besoin de 355 pièces pour fabriquer un turbopropulseur. Avec la 3D, elle le construit en 12 pièces. Donc tout ce commerce éclaté des composants va se réduire. Les énergies renouvelables, de plus en plus des énergies renouvelables, mais les énergies renouvelables, elles sont locales, etc., etc. Je vous détaille pas tout le livre. À chaque fois, des analyses générales, des exemples concrets d'entreprises, l'avenir est au made in local. Cas à moins de mondialisation.
Donc là, on est un petit peu dans la bonne nouvelle quand même.
Oui, je trouve qu'on est dans la bonne nouvelle. Mmh. Ce sera plus écolo, ce sera plus social et vraiment, ça va dans le bon sens.
La relocalisation du monde, le livre de Cyril Coutancé avec une préface de Pascal Lamy. C'est aux éditions du CNRS. Allez, l'émission touche à sa fin. On passe au coup de cœur.
Tu me diras à moi combien j'ai gagné? Si je te dis, je ne sais même pas moi-même. Est-ce que tu vas me croire?
L'escroquerie est liée à la taxe carbone qui permet, vous le savez, aux entreprises d'acheter et de vendre des droits à polluer.
Des individus venus quasiment de nulle part
réaliser le casse du siècle.
Ils ont jamais su regarder leurs pieds et faire profil bas.
On m'en donne, je les prends, je les dépense.
N'importe quelle personne, il les aurait cachés. Lui, il voulait les dépenser toute la journée.
Tu le prends pour Bob Daddy?
Quand vous prenez de l'argent dans une caisse publique, vous prenez de l'argent à la solidarité. Pas juste de l'argent abstrait, c'est quand même de l'argent avec lequel on peut faire des choses concrètes.
Ça s'appelle Les Rois de l'arnaque et c'est, je crois, le coup de cœur de tout le monde sur ce plateau. Le film de Guillaume Niclou, Christian Chavagneux, je me tourne vers vous parce que finalement, les escrocs, c'est vous qui en parlez.
Ouais, j'adore les escrocs. Hein. C'est l'histoire d'une fraude fiscale à la TVA sur des quotas d'émissions de CO2. Quand une entreprise émet plus de CO2 qu'elle n'a droit, qu'elle n'a autorisé, elle doit acheter des droits d'émission et si elle a émis moins, ben, elle peut les vendre. Et donc, il y a une bourse Blue Next qui s'est organisé et sur tous les échanges il y avait de la TVA et ils ont fait de la fraude à la TVA traditionnelle sur ce marché-là. Évidemment, le documentaire ne tient que parce qu'on l'a entendu, il y a un personnage clé, la gouaille de Belleville.
Mais invraisemblable.
Attention, ce n'est pas un héros. Il faut pas confondre. C'est pas parce qu'il a de la gouaille et qu'il est drôle qu'il est un héros. Il y a des gens qui meurent pour de vrai. On n'est pas dans une série. Et ils ont, avec sa petite équipe, réussi à subtiliser à peu près 280 millions d'euros. C'est des lits d'hôpitaux en moins. C'est des écoles qui ferment. Donc c'est pour moi, c'est pas un héros, mais c'est quand même un personnage. L'origine de l'arnaque, c'est quand même dingue. C'est un de ses amis qui est en prison. Et il y a un autre tolard qui lui parle d'écologie tout le temps. Il dit écologie, écologie. J'en avais marre quand je suis sorti. Je me suis intéressé à l'écologie, évidemment, comme Saint-Truand, il s'intéresse à l'écologie. Pour monter une arnaque, les outils, c'est les paradis fiscaux, Chypre et Hong Kong notamment. On apprend dans le film que pour créer une société fictive, eh ben vous avez besoin de 200 000 euros. Et puis alors surtout, les répliques du personnage, à mourir de rire. Et le résultat du procès, c'est le 7 juillet. Il dit, Monsieur le Président, il dit au président du tribunal, Monsieur le Président, on ne peut pas mettre ça au mois de septembre, que j'ai le temps de prendre mes vacances.
Mais et il puis, est fabuleux, Christian, oui, bien sûr. On peut en parler pendant des heures.
Ouais, mais j'ai juste une dernière réplique, parce qu'à mon avis, c'est la meilleure, c'est du Michel Audiard. Quand il apprend qu'il est condamné à 8 ans de prison, il ne vient pas au tribunal, il s'enfuit et là il dit, je suis pas en cavale, je prends du recul. C'est quand même génial.
Et moi j'étais surprise que ça soit si facile au début, la fraude à la TV carbone.
Nous aussi on était surpris que ce soit aussi facile.
Ouais, que le marché n'ait pas été mieux conçu. Sais-tu un documentaire Netflix, Virginie Martin? Du coup je me tourne vers vous, je pense à vous et je me dis, quel est votre coup de cœur?
Alors ça sera peut-être du côté d'Arte, Serviteur du peuple, qui montre finalement comment ce président de l'Ukraine aujourd'hui, donc vraiment en poste, Volodymyr Zelensky, est finalement arrivé donc à prendre la tête de l'Ukraine. Mais au départ, il est comédien et il est le héros de cette série qui s'appelle Serviteur du peuple. Cette série donc passe sur Arte en ce moment, c'est truculent et la fiction est devenue réalité. Volodymyr est vraiment président de l'Ukraine. Avant, il était juste acteur.
Émilien Ruiz, vous aussi, vous avez une petite obsession, parce que j'ai vu votre coup de cœur, vous l'avez posé sur la table. Oui, mais dites-nous avec quoi vous êtes venu.
Ça fait très monomaniaque, mais c'est le livre de Julie Gervais, Claire Lemercier et Willy Pelletier, qui s'appelle La valeur du service public, qui a été publié à La Découverte. Et c'est un vrai coup de cœur, parce que c'est un livre qui unit les forces du coup d'une historienne, d'une politiste et d'un sociologue pour réfléchir en chercheuse et chercheur en sciences sociales à qui veut la peau du service public. Et donc, en fait, c'est un livre très agréable à lire. Il est plein de textes assez courts, de témoignages, d'illustrations. Et c'est vraiment un livre qui, en fait, est une synthèse de tous les travaux les plus importants de sciences sociales sur ces questions et qui permet d'aller au-delà des questions qu'on a évoquées, par exemple, autour des fonctionnaires, en passant par en bas, c'est-à-dire comment vivent aussi les agents toutes ces réformes des 20 dernières années.
Et c'est publié à La Découverte ?
C'est ça, à La Découverte.
Sandrine Foulon, votre coup de cœur ? Madame Vieux-Boulot ?
Oui, alors, j'ai deux coups de cœur. Héritocratie, les élites, les grandes écoles et les mésaventures du mérite, du sociologue Paul Pasquali, aux éditions La Découverte. C'est un livre passionnant qui montre la capacité des défenseurs de ces institutions d'élite à trouver de nouvelles parades, toujours des nouvelles parades, pour barrer la porte aux enfants des classes populaires. Et c'est pas le mythe de l'étudiant boursier qui compense ces inégalités. Mmh. Et puis, L'enfer numérique, voyage au bout d'un like, du journaliste Guillaume Pitron.
Là, c'est une enquête, hein ?
Oui, c'est une enquête édifiante sur les mines de métaux rares, les câbles, les réseaux, les data centers. Vous auriez tort de croire, Alexandra, que tout se passe dans le cloud. Tout est très matériel dans le numérique. Les chapitres sur les enjeux écologiques sont les plus intéressants. Vous ne regarderez plus jamais votre smartphone avec les mêmes yeux.
L'enfer numérique, voyage au bout d'un like de Guillaume Pitron. C'est aux éditions Les Liens qui Libèrent. Laurent Bigogne, le livre que vous allez offrir à Christian Chavagneux, il est publié. Vous entendez, c'est Rican. Il est publié aux éditions de l'Observatoire.
Oui, c'est un ouvrage de Paul Hermelin qui s'appelle « La science en procès ». Le sous-titre est « Sans innovation, pas de démocratie ». Soyons très francs, les ouvrages de dirigeants d'entreprise sont rarement intéressants.
Et rappelez-nous qui est Paul Hermelin.
Paul Hermelin a été pendant près de 20 ans dirigeant de Capgemini. Il est maintenant président du conseil d'administration de cette grande entreprise française et multinationale. Il a fait l'école polytechnique, mais il a aussi eu une carrière dans l'État avant d'être chez Capgemini. Notamment, il a été directeur du cabinet d'Hubert Curien quand celui-ci était ministre de la Recherche entre 88 et 93. Paul Hermelin pose une question fondamentale qu'il appuie sur énormément de constats de littérature française et internationale. Il pose la question, au fond, de la réconciliation de l'innovation, de la science, de la technologie et de la démocratie. Et plus sûrement encore, il s'interroge sur les pistes qui permettraient de réconcilier l'opinion publique, la science et la technologie, des pistes politiques, des pistes intellectuelles. Et je trouve que l'ouvrage est particulièrement important avant la présidentielle, particulièrement important dans le contexte, évidemment, de la pandémie que nous traversons. Et je le redis, il est rare qu'une réflexion d'un dirigeant d'entreprise soit aussi structurée et profonde.
Christian Chavagneux, je vous donne 20 secondes pour nous donner vos coups de cœur.
Les plastiqueurs enquêtent sur ces industriels qui nous empoisonnent par Dorothée Moisan chez Kero, puisque parmi les multiples façons qu'a inventé l'humanité pour détruire la planète, il y a le plastique. Elle nous décrit bien, cette journaliste, comment les multinationales adoptent la triple stratégie, deny, delay, deflect, nier qu'il y a un problème, retarder toute réglementation, détourner le sujet. Et puis quand même, un petit mot sur Économie de la dette par Antoine Brinder, Florence Pisani, Émile Gagnat, à la découverte. Enfin, une explication sérieuse sur le rôle de la dette dans l'économie. Une vague de dette correspond toujours à une vague d'épargne. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de dettes, il y a beaucoup d'épargne. Et si le privé s'endette pas assez, il faut que ce soit le public. La dette publique, ça évite l'austérité et les chutes de croissance.
Comment on appelle cette figure de style où vous revenez là où vous avez commencé? Merci Christian Chavagneux. Merci à Sandrine Foulon, merci à Laurent Bigorne, merci à nos deux invités, Virginie Martin et Émilien Ruiz. Merci à Céline Hilla, notre réalisatrice, à Valentin Pérez qui prépare cette émission avec moi, à nos irremplaçables reporters de l'année, Anaël Verzo, Marion Ferrer, Claire Chaudière, Maxime Debs. Merci aux correspondants étrangers et enfin, merci à la technique, Jenab Sangaré et Jean-Philippe Jeanne.